en finissant de préparer ce matin, verser m'a transpercé l'esprit. Et je dois dire que depuis ce matin, on est un peu sous cette image-là. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en même temps, je le relisais tout à l'heure, et j'avais zappé le verset qui était juste avant. Et Paul rappelle à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et un peu à l'image des forains, je pourrais lancer cette exclamation, qu'ils sont beaux nos fruits. Vous savez, ces forains qui viennent, qui sont sur les marchés et qui incitent aux chalands à porter le regard sur ce qu'ils ont à vendre. Ou bien utiliser une expression un peu dérivée, ils ne sont pas beaux nos fruits. En même temps, je me disais que nous devrions peut-être être tous sur les marchés à montrer nos fruits. Montrer comment chacun peut en avoir gratuitement et plus qu'il ne peut l'imaginer. Aujourd'hui donc est le jour de la Pentecôte. C'est un jour particulier pour ceux qui croient. C'est une fête dont l'origine remonte au temps de l'ancienne Égypte. Nous allons regarder l'origine de cette fête, sa signification dans le plan divin. Nous regarderons aussi quelques faits remarquables et leurs conséquences pour ce jour particulier et les raisons pour lesquelles je vous proposais de nous retrouver sur les marchés pour montrer nos fruits. Mais je proposais de commencer de remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, tu nous as rappelé depuis ce matin que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Que pour celui qui se confie en toi, tu as prévu aussi de le guider par ton esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs, rends-nous attentifs à ce que tu as à nous dire. Fortifie-nous pour ceux qui te connaissent. Exhorte ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore fait ce pas, à te rejoindre. Dans le nom de Jésus. Amen. Le texte autour duquel nous allons mener notre réflexion a été en partie, enfin, un petit morceau a été lu ce matin, Acte 2. Acte, chapitre 2. Les versets 1 à 36. Dans un premier temps, on va lire uniquement les 13 premiers versets. Dans la version Semeur, donc Acte 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthès, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas. Plongés dans la plus grande perplexité, excusez-moi, ils se demandaient entre eux qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Quelle scène! Pourquoi cette effusion ce jour-là, ce jour de Pentecôte? Pentecôte traduit l'hébreu, excusez-moi pour mon accent horrible, quelques-uns parlent hébreu dans cette salle. Pentecôte traduit l'hébreu Hamissim Yom, qui signifie 50 jours. Dans le livre de l'Exode, chapitre 23, au verset 16, on a la première instruction. Observe la fête de la moisson, dit l'Éternel, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Un peu plus loin, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, versets 15 et 16, et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, et au verset 9 et 10, on trouve le détail du décompte du nombre de jours. C'est la deuxième fête la plus importante entre la Pâque, qui se situe entre la Pâque et la fête des tabernacles. Elle est appelée donc fête des semaines, parce que sa date est simplement fixée cette semaine après l'offrande des gerbes et des prémices de l'orge. C'est le symbole de la consécration de la moisson. Elle est aussi appelée fête de la moisson. C'est ce qu'on retrouve dans le livre des Nombres, au chapitre 28, les versets 26 à 31. Tout travail est arrêté, c'est un jour de joie. L'une des offrandes que devait apporter le peuple était faite de pain de froment nouveau. Tout homme devait se présenter devant le sanctuaire avec la crainte de l'Éternel et exprimer toute la reconnaissance des bénédictions accordées pour les récoltes. C'était un jour d'expression de louange à Dieu pour les bienfaits accordés. Il y avait ce jour-là des sacrifices de communion qui rappelaient la sortie du pays de servitude, de l'Égypte, et des holocaustes. C'était donc un peuple racheté qui se présentait devant le sanctuaire. Ce n'est qu'un peu plus tardivement, dans la période intertestamentaire, que certains rabbins ont fait un rapprochement entre la fête de la Pentecôte et la promulgation de la loi au Mont Sinaï. Dans l'écriture, il n'est pas possible d'établir un lien probant entre ces deux événements. Certains commentaires disent même qu'on serait plutôt sur 60 jours de décalage. Néanmoins, au temps de Christ, c'était la pratique. Les Sadducéens avaient repris le calcul des anciens suivant les sept semaines, suivant le verset 15 du livre du Lévitique du chapitre 23, considérant que le sabbat était hebdomadaire, et donc tombé le premier jour de la semaine. Cette règle-là fut établie jusqu'à la destruction du temple en 70. Deux remarques complémentaires que j'ai qualifiées dans l'introduction de faits remarquables, qui vont prendre un éclairage particulier le jour de la Pentecôte. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 5 à 8. Petit rappel, dans le texte, je ne vais pas relire tout le passage, je lirai simplement les trois versets. Petit rappel, les hommes sont en train de s'entendre entre eux, ils parlent le même langage, ils s'entendent entre eux et ils commencent à bâtir une tour pour atteindre les cieux et pour éviter que leur nom ne soit pas perdu sur la terre. Verset 5. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire, la construction de cette tour. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons, dit Dieu, et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux, et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. Tous parlent le même langage. Ensemble, ils projettent de construire une tour. L'autre remarque complémentaire est tirée du livre de l'Exode, chapitre 32, verset 28. Les Lévites, le texte dit, les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. C'est le passage dans lequel la loi vient d'être donnée à Moïse. Pendant 40 jours, il est sur le mont Sinaï. Le peuple trouve le temps long. Voilà qu'ils se construisent une idole. Et la sanction de Dieu tombe. 3000 perdirent la vie ce jour-là. Revenons au texte, acte 2.1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Intellectuellement, spirituellement, tous les gens qui étaient là étaient dans l'état, dans la pensée de ce que nous venons de voir. On estime à peu près à 100 000 personnes le nombre de personnes qui étaient présentes ce jour-là. Ça fait à peu près 7 semaines que Christ s'est offert en sacrifice expiatoire pour les hommes. Et pendant son ministère, il n'a cessé de semer la bonne nouvelle du royaume. Dans le livre de Matthieu, on lit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Il est venu sans cesse sauver ceux qui étaient perdus, les malades, les opprimés. Il nous dit aussi, pendant son ministère, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a aussi laissé quelques promesses. Dans Jean 14, on peut lire « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Au verset 26, on peut lire toujours dans le même chapitre « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit de moi. » Lui-même est sous l'onction de Christ, de l'Esprit, pardon. Puisque Jésus lui-même cite le prophète Ésaïe, entrant dans une synagogue, il dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » C'est le premier évangéliste. Il a accompli des miracles innombrables. Jean termine son évangile en disant que le livre ne suffirait pas à contenir tout ce qu'il a pu faire. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Il a été vu par plus de 500 témoins. Et pendant son passage, il rappelle « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Tous les éléments du plan divin sont en place. Ceux qui connaissaient Dieu, qui connaissaient la loi, et pendant ces 3 années, une autre type de population, ceux qui avaient partagé avec Christ, c'est son enseignement. Le jour de la Pentecôte est là et tout d'un coup il se passe quelque chose. L'Esprit descend sur les croyants. Sous la forme de langues qui semblaient de feu, nous dit le texte, chacun reçoit l'Esprit Saint. D'où que viennent les personnes, celles qui croyaient, qui avaient entendu, il y avait des juifs pieux. ont reçu, tous ceux qui croyaient ont reçu l'Esprit Saint. Il n'y a plus là de distinction de clan, de tribu, de nationalité, de rang social. Toutes les nations, tous les peuples comprennent ce que disent les témoins. Il y a là une moisson de témoins qui parlent dans les langues qui n'ont jamais été apprises. Ce jour-là est magnifique. Ces âmes-là, ce sont les fruits du travail de Christ. Ce sont les fruits du ministère de Christ, les premiers chrétiens. Ce ne sont plus des hommes qui offrent quoi que ce soit. Mais Christ qui offre à Dieu le fruit de son travail. Les fruits sont merveilleux. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils parlent des merveilles que Dieu a accomplies. Ces premières âmes-là, nos premiers frères, sont sous la grâce. Il réalise aussi toutes les promesses qu'il a faites. Le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit de moi-même. Toutes les prophéties, on en a lu quelques-unes ce matin, toutes les prophéties le concernant sont réalisées, que ce soit dans le livre de Joël, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie. La manifestation même de cet événement semble difficile pour lui, pour Luc. Il vient du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Avec les chahuts climatiques que l'on connaît, on peut s'étonner que personne ne soit bousculé. Au contraire, tout le monde garde l'attention portée. De même, des langues qui semblaient de feu, qui ne brûlent personne. Ces mêmes langues qui rappellent le feu qui revêt la nuée, telle que nous décrit l'écrivain dans le livre des Nombres, au chapitre 9. Ainsi Dieu, par cette action-là, reconnaît la communauté de ses enfants. Le feu symbolise l'action purifiante qui brûle nos impuretés et allume notre cœur comme témoin. On peut imaginer, je vous laisse quelques secondes pour imaginer un peu la scène qui a pu se passer. Une ville regroupant 100 000 habitants, je n'ai pas la taille des communes lyonnaises, mais d'un coup il se passe quelque chose à un endroit et tout le monde accourt. Et chacun peut être dans l'incompréhension. Quelques remarques. La première Pentecôte s'est déroulée dans le désert, avec comme seul témoin le peuple élu. La première Pentecôte de la Nouvelle Alliance se déroule à Jérusalem, dans la ville sainte, devant des peuples et des nations. Deuxième remarque. Souvenez-vous, lors de la promulgation de la loi, 3000 périrent. Un peu plus loin dans le passage, au verset 41, Dieu amène 3000 âmes. Ces 3000 âmes furent simplement rajoutées par grâce. Troisième remarque. La construction humaine rendue impossible par Dieu. Ces hommes qui voulaient, avec des briques et du bitume, échafauder une tour pour être l'égal de Dieu. Ce jour-là, cette tour a été arrêtée. Et là, par la Pentecôte, ce sont les premières pierres vivantes de l'Église qui sont posées sur la pierre d'angle, pour reprendre l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2. ces premières pierres vivantes posées sur Jésus-Christ. Ce jour-là, l'Église universelle commence. Quatrième remarque. Ceux qui étaient rassemblés là fêtaient la promulgation de la loi mosaïque. Voilà que le régime de la grâce commence. Ce n'est plus la loi qui va conduire les croyants, mais la grâce dans le cœur de chacun. Cinquième remarque. La loi a été écrite sur des tables de pierre, de la pierre froide, sans vie. La grâce est écrite dans les cœurs bouillants, nous dit le texte. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, on retrouve cette expression de Dieu, cette promesse de Dieu. « J'écrirai dans leur cœur ma loi, je transformerai leur cœur de pierre en cœur de chair. » Sixième remarque, concernant cette journée particulière, Moïse est descendu de la montagne avec la loi, l'Esprit Saint est descendu des cieux après que Christ y soit monté. Septième remarque, nous n'avons rien à offrir comme dans la loi. Christ s'est offert pour nous et nous sommes au bénéfice de son sacrifice. Dernière remarque, souvenez-vous, le langage avait été brouillé. Et voilà que tous maintenant parlent une langue compréhensible de tous. Et dans cette langue, chacun parlant un langage qu'il n'a pas étudié, chacun comprend les merveilles de Dieu. On peut reconnaître dans ce fait le miracle réalisé par Dieu que chacun des langages exprimés soit compréhensible. Un petit témoignage. Je connais un homme qui a été mis au contact de l'Évangile il y a un peu plus de 10 ans. C'était un sportif, il courait 2 fois par semaine. Et de plus en plus en contact avec l'Évangile, son cœur était travaillé. Et chaque fois en courant, entre autres, il demandait pardon et il demandait à Dieu vraiment d'être sauvé. Sa belle-maman, c'était un homme marié, sa belle-maman était dans une autre région et fréquentait un autre type d'assemblée. Et lors des échanges téléphoniques, elle lui posait toujours la question. Alors, tu as parlé en langue? Bah non. Alors tu n'es pas sauvé. Plusieurs fois de suite. Ça devait être de plus en plus compliqué pour ce témoin. Pourquoi je suis exclu, Seigneur? Disait-il. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai oublié dans ma mémoire pour recevoir ton pardon? Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion, il demande à une sœur et à un frère qui sortaient là en même temps, « Comment saurais-je que je suis sauvé ?» La réponse fut, « Ne t'inquiète pas, tu le sauras. C'est clair, c'est net, c'est précis. » Quelques jours après, ce témoin sut qu'il a été sauvé, sans effusion, sans chose extraordinaire. Mais il a pris pour lui pleinement ce verset qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. La Pentecôte, c'est ça. Cette idée de souffle, de bruissement, on peut la retrouver aussi dans Élie, alors que le prophète puis la reine se dit « Ben, je me retrouve moi seul ». Il se retrouve conduit par Dieu dans une grotte. Il entend le tonnerre, il entend l'orage, mais le Seigneur n'est pas présent. Et puis d'un coup, il entend un bruissement dans l'air. Et là, il se jette face contre terre et reconnaît la présence de Dieu. Tout de suite après que ces événements eurent lieu, et que les premiers cœurs se soient levés pour témoigner, Pierre se lève à son tour, c'est le deuxième fruit. Pierre se lève à son tour. Ce Pierre impétueux qui, avec une épée, avait coupé une oreille. Mais sa fougue, sous le contrôle de l'esprit. On ne va peut-être pas tout lire le passage, mais son discours commence au verset 14 et se termine au verset 36. Ce discours de Pierre est bâti sur des prophéties, notamment celle de Joël, sur des psaumes, psaume 110 et le psaume 16. Et ça nous a été lu ce matin. En résumé, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dans son résumé, dans son discours, on peut faire ressortir trois points. Il rappelle l'un des premiers points. Le premier point, c'est que il rappelle la vie extraordinaire de l'homme Jésus, verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Le souvenir, on n'est qu'une cinquantaine de jours après le sacrifice. Donc tout le monde a en tête ce que Christ a accompli. Le souvenir des miracles et des œuvres accomplis par Jésus. Le rappel, ce rappel que fait Pierre nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Le deuxième point, il témoigne ensuite des causes à la fois humaines et divines de sa mort, au verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. On est dans le plan divin. La mort de Jésus est une décision arrêtée de Dieu. Il fallait qu'il meure pour les péchés du monde, les nôtres, y compris les nôtres. Mais il y a deux populations, celle qui croit et celle qui souhaitait le supprimer parce que ça les dérangeait. Et que cette mort-là permet que celui qui se met au bénéfice de Christ soit pardonné. Troisième point que reprend Pierre, c'est sa résurrection attestée. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La réalité de la résurrection, les témoins qui l'ont vu, cette fête, aujourd'hui, de Pentecôte, n'est pas une fête comme la Pâque, aussi importante pour nous chrétiens que la Pâque. Pour une raison, je pense. Chaque fois qu'une âme se confie en Dieu, il reçoit l'Esprit. Autrement dit, chaque fois qu'un chrétien plie le genou devant le Seigneur et le confesse comme son sauveur, c'est Pentecôte pour lui, il reçoit l'Esprit Saint. Au travers de ce qui s'est passé là, ce jour de Pentecôte il y a 2000 ans, on peut se poser des questions pour nous. Où sont nos fruits ? Christ, par son sacrifice, par son enseignement, a porté les premiers témoins comme sacrifice, comme le fruit de son travail à Dieu. Où sont nos fruits ? Nous sommes chacun un fruit pour Jésus, pour la gloire de Dieu, en Jésus, pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous au bénéfice de cette Pentecôte, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Nous sommes tous équipés de cet Esprit. Quels sont les fruits que nous portons ? Verset 11, Le passage que nous avons lu reprend « Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Paul nous laisse, Paul, l'épître des gentils, l'apôtre des gentils, pardon. L'apôtre des gentils, l'apôtre pragmatique, nous laisse un verset. Quand il s'adresse aux Galates, il s'adresse aussi à nous, il écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et il rajoute, verset 23, « La loi n'est pas contre de telles choses. » Je vois quelques lèvres qui... Qu'est-ce qu'un fruit ? C'est un organe, plusieurs définitions. C'est un organe végétal, je lis le dictionnaire, hein, issu du développement de l'ovaire fécondé qui succède à la fleur et contient les graines nécessaires à la reproduction. Un fruit, c'est quelque chose qui va permettre de continuer l'espèce. Deuxième définition, c'est un produit comestible des végétaux que l'on consomme le plus souvent comme dessert. Goûter comme le Seigneur est bon. Le troisième élément, la troisième définition, c'est un avantage, c'est un profit, un avantage que l'on tire de quelque chose, le fruit de son travail. C'est dans ce sens figuré que Paul développe cette idée. Jésus l'avait déjà utilisé dans... Et c'est repris dans l'évangile de Matthieu notamment, « Tout arbre porte de bons fruits. On reconnaît un fruit à son arbre. » Dans la liste que laisse le verset, l'amour, la joie, la patience, on peut reprendre un à un les éléments, et ce sera pratiquement ma conclusion. Le premier point, l'amour. L'amour comme « Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. » Ne voyons pas les différences, mais les ressemblances. Jean nous dit, qui n'aime pas son frère qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer Dieu? Qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu? Merci Christophe. Qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La joie du salut. Ces premiers chrétiens brûlaient la joie de la communauté, la joie des bienfaits de Dieu, quand bien même on est dans la souffrance, on est dans l'épreuve. L'expérience de Job, par exemple. Je fais juste une petite parenthèse. Dans les premiers versets de l'évangile de Matthieu, il est dit que l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Ça ne veut pas dire que l'Esprit veut que Jésus chute. Non. C'est pour glorifier Dieu, parce que Jésus a résisté. Quand nous sommes dans l'épreuve, et c'est pour ça que cette joie-là est importante, ce n'est pas pour que nous chutions, mais pour que nous nous rapprochions de lui. La paix, après la joie, la paix, comme celle avec Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1. Entre frères et sœurs, c'est aussi une idée que reprend Paul au chapitre 14, verset 19. Je ne les cite pas, je vous laisse le soin d'aller regarder pour ceux qui prennent des notes. La patience pourrait être caractérisée de persévérance. 2 Pierre 1, 4 à 7, la persévérance qui fait que nous soyons, que nous sommes trouvés fermes dans le Seigneur. La bienveillance, ou la capacité à accueillir l'autre tel qu'il est. La bonté, comme celle qui conduit au pardon. La foi, ou la fidélité. La douceur, nécessaire tant pour l'enseignant, comme nous le dit Paul dans son épître, dans sa deuxième épître à Timothée, que pour l'auditeur. Mais Elle est précieuse aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3, 4. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est un grand prix devant Dieu. La maîtrise de soi. Comme pour placer notre vieille nature sous le contrôle de l'esprit. Je vous propose pour terminer ce verset dans l'Épître aux Éphésiens qui est très court. Soyez remplis de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que on doit juste recevoir l'Esprit et puis comme une mare stagnante ou comme une verre stagnante, dans il ne se passe plus rien. Prenons-le dans le sens rempli de l'Esprit, renouvelé en permanence. Christ utilise ces mots, des flots d'eau vive couleront de son sein. Pour que nous soyons toujours à son écoute, toujours sous sa direction. Sans attendre l'année prochaine. Est-ce que nous pourrons aller montrer nos fruits sur les marchés dans la région? Amen.